Comment peut-on passer de la pure quantité, qu'est le quantum d'affect, pratiquement une excitation, à ce qui se donne et s'exprime comme une qualité, sinon comme une pure qualité, en tout cas sous des formes très différenciées, dans ce qu'il est convenu d'appeler la vie affective et qui donne leurs mille nuances aux émotions ou aux sentiments. Le même mot d'affect convient-il pour désigner des réalités si différentes ? Cette question trouve son origine dans le corpus et la pensée freudienne, mais aussi dans la dualité des origines de cette pensée, le laboratoire physicaliste d'un côté, la philosophie romantique de l'autre. On peut aussi lui trouver une formulation un peu différente et plus tardive, qui m'avait retenu aussi dans le célèbre passage d'Au-delà du principe de plaisir, dans lequel Freud appelle de ses voeux une esthétique d'orientation économique, esthétique qui permettrait de comprendre comment une impression douloureuse peut devenir une source de jouissance. Cette question, vous le savez tous, j'imagine, est posée à l'issue de la description du jeu de la bobine qui voit la transformation du départ de la mère et du déplaisir qui est lié à ce départ, transformation en un jeu actif, où le fait de jeter la bobine au loin, d'une part, la répétition à volonté de l'autre, transforme le déplaisir en plaisir. Transformation de la passivité en activité, répétition, impulsion de l'ordre du défi. Eh bien, dirait l'enfant, pars, je n'ai pas besoin de toi, c'est moi-même qui t'envoie au loin. On a là tous les ingrédients de la création d'un jeu et d'une forme. Freud, dans la suite de ce texte, voit dans la tragédie l'exemple même de la transformation d'expériences ou d'impressions douloureuses en plaisir. On le sait d'ailleurs depuis Aristote, crainte et pitié naissent de l'agencement des faits, du mutos, donc d'une représentation, d'une mise en scène, d'une mise en forme sans laquelle il n'y aurait pas de tragédie possible et donc pas de plaisir esthétique. La forme tragique obéit à des exigences précises, une histoire unique, utilisant un langage, dit Aristote, relevé de divers assaisonnements et divers renversements, coup de théâtre, reconnaissance, toute forme obéit à des contraintes analogues. Jean-Louis Baldacci a rapproché ce passage du jeu de la bobine et l'esthétique d'orientation économique du texte de Freud, Souvenirs d'enfance, de poésie et vérité de Goethe, dans lequel Freud évoque l'exemple d'un petit garçon de 2 ans et demi qui jette des objets lourds par la fenêtre, à l'instar du souvenir autobiographique de Goethe, lançant par la fenêtre sa vaisselle miniature, puis les assiettes de la maison. Ces scènes symbolisent, selon Freud, l'acte magique par lequel l'enfant aimerait bien se débarrasser de l'intrus gênant, petit frère ou sœur, ou en l'expédiant bruyamment au loin. Pour le petit patient de Freud, il symbolise aussi la mère enceinte à laquelle l'enfant disait « Maman, je vais t'enfoncer le ventre ». Freud conclut son article en montrant que cette qualité expressive concernant l'attaque indirecte du corps maternel est d'autant plus vive que l'enfant a été le favori incontesté de la mère. On garde, dit-il, pour la vie, ce sentiment d'être un conquérant. Dans ce cas, si l'on revient au-delà du principe de plaisir, le jeu de l'enfant peut se transformer à l'âge adulte en activité créatrice et ne plus viser directement la mère, mais le spectateur, avec qui sont partagés, par l'emboîtement de renversements complexes, les éloignements et les retours autrefois vécus par l'enfant et néanmoins représentés grâce à l'attention tolérante d'une mère. Celle-ci, se demande Jean-Louis Baldacci, serait-elle la condition de cette esthétique d'orientation économique que Freud appelle de ses voeux ? Une esthétique qui, à l'origine, représente et permet de partager les départs et les retours de la mère fait ressentir les, je cite la Freud, fait ressentir les impressions les plus douloureuses comme une jouissance supérieure et va donc au-delà de la maîtrise de la détresse. Baldacci remarque que récemment, Bambi a été classé parmi les cinéphiles dans le top 15 mondial des meilleurs films d'horreur avant Psychose. Et il ajoute que si le personnage d'Hitchcock avait pu dire à sa mère, comme cet enfant de 8 ans, évoqué par Freud au retour d'une visite au Muséum d'histoire naturelle, « Maman, je t'aime tellement que si tu venais à mourir, je te ferais empailler et je t'installerais dans cette pièce de manière à te voir toujours », le personnage d'Hitchcock serait sans doute devenu humoriste plutôt que criminel. Depuis l'écoute de l'analyste, publiée en 2012, mais au fond, c'est-à-dire depuis ton rapport au CPLF de 2001 sur l'action de la forme, jusqu'à ton dernier ouvrage, Laurence, « Ce que le nazisme fait à la psychanalyse », il me semble que ces questions t'accompagnent. Quelle place et quelle confiance accorder à l'affect? Comment se présente-t-il ou se représente-t-il? Dans quelle forme? Après Auschwitz, et je prends ici, comme toi, Auschwitz, comme le nom général que, avec Kertész, tu donnes au bouleversement de la culture à notre époque après le nazisme, quand l'homme est sans destin et que la tragédie ou l'homme tragique n'existe plus, ce que tu appelles liquidation de la tragédie. Après Auschwitz, donc, à quelle forme avons-nous encore affaire? Et toujours, plus que jamais sans doute, quel crédit accorder à l'affect? Telles sont les questions auxquelles, évidemment, je serais bien incapable de répondre vraiment, mais que je voudrais m'efforcer de mettre au travail. Concernant l'affect, tu annonces d'emblée dans tes titres et dans tes textes la couleur. Embûche de l'affect, je t'emprunte ce titre. Fourvoiement par l'affect. Le pouvoir, dis-tu, le pouvoir d'obturation de l'affect est à la mesure de sa capacité à ouvrir le champ spéculatif. Et ce sont vraiment ces deux mouvements qu'il faut tenir ensemble. Tout se passe comme si, alors, les psychanalystes, qu'on aurait pu croire quand même un peu plus circonspects, sinon plus méfiants, retrouvaient avec émerveillement ce contre quoi nous ont cependant mis en garde Freud d'un côté, des siècles de philosophie et de littérature de l'autre, pour ne rien dire de l'histoire et des guerres, et ils retrouvent l'innocence de l'enfant, la vérité des sentiments et de notre rapport au monde, la transparence des cœurs et des relations humaines, la fiabilité d'une connaissance fondée sur les sensations, etc. etc. Je ne crois pas supporter davantage que toi l'appel à l'empathie et au bon sentiment, le pathos de l'irreprésentable et de l'indicible, tout ce que tu appelles, à juste titre, le kitsch émotionnel, tout ce qui évacue du vif de la psychanalyse, avec tout ce qu'ils évacuent du vif de la psychanalyse, de la sexualité et de l'inconscient. Je me dis d'ailleurs, Catherine, tu as la gentillesse de le rappeler, qu'au fond, je n'ai pas travaillé pendant si longtemps sur la figure flegmatique et apathique du dandy, qui n'est pas moins méfiant. Peut-être, on pourrait dire davantage encore, pas moins méfiant à l'égard des affects, qui lutte pied à pied contre toute émotion et travaille inlassablement à construire une indifférence qui n'est peut-être pas la même que celle dont on parlera et qui resterait à définir, mais qui se déploie quand même dans une zone proche. Dans l'écoute de l'analyste, donc, que je vais d'abord suivre vraiment pas à pas, tu démarres ton analyse de l'affect par l'analyse du rêve freudien de l'oncle à la barbe jaune. J'en donne juste le tout début. L'ami R est mon oncle. J'éprouve une grande tendresse pour lui. Ce rêve, écris-tu, est exemplaire, je te cite, du fourvoiement entraîné par les sentiments éprouvés durant le rêve. En effet, la tendresse pour l'oncle à la barbe jaune, seul oncle de Freud dont l'image est condensée avec celle de son ami R, se révèle à l'interprétation comme le renversement de la tendance opposée, à savoir le mépris et la critique de cet oncle, c'est une tête faible. L'affect est donc non seulement inversé, il est aussi déformé par la diffraction sur l'ami R, et la déformation est elle-même un procédé de dissimulation, dit Freud. Pour mettre en évidence cette dissimulation, Freud s'appuie sur sa résistance à interpréter ce rêve, qui lui semble d'abord un non-sens. L'affect ne ment pas seulement quant à son contenu, au sens où un affect vaut pour l'affect opposé, déformation par le simple renversement en son contraire, qui est un procédé courant du rêve. Donc l'affect ne ment pas seulement de cette façon, car tel est l'intérêt de ce rêve, ce seul procédé serait peut-être un peu trop grossier, le rêveur n'y croit pas du tout, et il est conduit très rapidement à dévaloriser le rêve, ce que Freud estime être donc en même temps la dévalorisation, la résistance, le levier au fond de son interrogation. On pourrait donc dire que, à propos de ce rêve, la déformation est au carré, un petit peu comme Jean-Luc Denis parle d'après-coup au carré, ou peut-être plus exactement que la déformation se combine avec un déplacement propre, écrit Freud, à masquer la connaissance de l'interprétation du rêve. Elle dissimule l'hostilité à l'ami R derrière la tendresse à l'égard de l'oncle. Il y a donc un double déformation. Deux sentiments que le rêveur trouve aussi peu crédibles l'un que l'autre. À la fois est peu crédible l'hostilité à l'ami et la tendresse à l'égard de l'oncle. Comme tu le soulignes très justement, Laurence, cette déformation renforcée pourrait, au fond, être un indice de véracité. Si on se laisse guider par la résistance qu'elle suscite, par le trouble qu'elle provoque, voire par le fourvoiement lui-même. En tout cas, on tient là, le pouvoir heuristique de l'affect. Sa nature paradoxale est aussi ce qui en fait un outil précieux. Mais précieux à deux conditions. D'une part, qu'on accepte de se laisser troubler et dérouter par la résistance, sans s'en tenir à l'absurdité apparente ou à la seule explication d'un renversement par le contraire. D'autre part, qu'on accepte de traiter l'affect en bloc, comme une entité au fond un peu grossière, globale et insécable, mais aux mille ruses possibles. L'affect, donc, se renverse en son contraire, l'hostilité en tendresse. Il peut aussi, sans changer de nature, renforcer un affect antérieur. Par exemple, une tendresse actuelle renforce une tendresse de l'enfance. Ou encore, se frayer une voie en profitant de l'occasion quand, par exemple, la haine se glisse avec l'amour. Il y en a bien des exemples dans l'interprétation du rêve. Il se déplace aussi d'une représentation à une autre. Il est présent ou absent. Par exemple, la sensation douloureuse dans le rêve de la course sur un cheval gris qui est absente. Et l'absence est à proprement parler l'indice de la répression de l'affect. C'est, écrit Freud, le calme plat d'un champ jonché de cadavres. On ne perçoit plus rien du tumulte de la bataille. Phrase terrible en même temps, je trouve. Au fond, l'affect ne serait le signe de rien d'autre, dis-tu, Laurence, que de l'effet même du travail du rêve. Si l'on transpose dans la cure et dans l'écoute de l'analyste cette proposition, on dira que l'affect ne serait qu'un signal, un indice, l'indice qu'il s'est passé quelque chose, sans qu'on puisse inférer de sa nature la nature de l'événement. À moins encore que l'événement ne s'impose et que le rêve profite des circonstances pour remplacer une représentation par une autre qui convoque un affect irrésistible, irrécusable, intense, un affect de l'enfance, de manière privilégiée, chez Freud, mais peut-être chez beaucoup d'entre nous, une rivalité fraternelle, et produit donc cet effet d'affect. La casuistique des déformations est donc extrêmement complexe. Mais tu ajoutes à juste titre qu'on a là une première articulation de la qualité, le signe d'une inscription, et de la quantité, l'indice de l'impact, même si on ne peut pas toujours dire grand-chose de cette qualité. J'ajouterai que si l'affect agit en bloc, cela ne signifie pas, comme tu le précises, cela ne signifie pas en masse. L'affect n'est pas pris dans la masse des représentations, mais au contraire, il se loge dans le détail de celle-ci, puisque sa mobilité est le gage de sa labilité à s'unir à une représentation ou à une autre, à une motion pulsionnelle ou à une autre, dans une indifférence totale à ce à quoi il est uni. Mais cette indifférence peut aussi nous induire en erreur. Car dans l'interprétation du rêve, après avoir montré combien l'affect ment, avec les infinis déplacements et substitutions que connaissent les représentations et les pensées du rêve, donc j'en ai donné quelques exemples, Freud affirme pourtant que les affects, pour leur part, n'ont pas été dérangés, qu'ils constituent, je le cite, la partie qui a résisté, bref, qu'au sein du partage encore maintenu entre représentation et affect, du partage de leurs destins respectifs entre refoulement et représentation et répression, pardon, l'affect a une stabilité qualitative. Je cite Freud, l'affect a toujours raison, du moins quant à sa qualité, son intensité, elle, peut être accrue par les déplacements de la tension névrotique. Comment alors comprendre ces propos contradictoires avec l'analyse du rêve de l'oncle à la barbe jaune, par exemple? Les exemples donnés par Freud montrent en fait que l'analyse doit se guider, tel est mon sentiment, sur le rapport entre affect et représentation. Et que c'est au fond ce rapport qui peut nous guider. Cela veut dire que l'affect n'est un guide légitime, justifié, que s'il permet d'accéder à une représentation refoulée. Mais au total, on pourrait dire de l'affect ce que Pascal dit de l'imagination, il est d'autant plus fourbe qu'il ne l'est pas toujours, car il serait, et là je cite Pascal, il dit ça de l'imagination, car il serait guide infaillible de vérité s'il était infaillible du mensonge. Dans certains cas, l'affect ment, il se renverse en son contraire, mais dans d'autres cas, il reste le même et s'unit à une représentation totalement différente, voire opposée. Bon, résultat des courses, puis-je dire, l'incertitude en partage. Reste en tout cas l'indifférence, pour en revenir à la question théorique, l'indifférence de l'union affect-représentation, indifférence, car l'union est arbitraire et labile. C'est la fameuse anecdote racontée par Freud à propos de cette énergie déplaçable dans laquelle un des trois tailleurs d'un village doit être pendu parce que l'unique forgeron a commis un crime. Et Freud cite cette anecdote pour montrer que, en tant qu'énergie déplaçable, l'affect est indifférent. Du même coup, si l'indifférence de l'affect comme énergie déplaçable est la condition de la plasticité pulsionnelle, de la sublimation et en définitive de la vie psychique elle-même, c'est l'enjeu de méconnaissance et non la cohérence qui, dans le rêve, guide son action. Et qui guide également la forme du rêve. La question est alors, qu'en est-il dans la vie interpersonnelle ou même dans la vie sociale, puisque l'affect est la modalité de la relation à autrui? Et également, qu'en est-il dans la cure? Le psychanalyste peut avoir sa petite idée sur la nature de l'affect et ses renversements. L'indifférence de l'affect en tant qu'énergie déplaçable, à l'indifférence de l'affect en tant qu'énergie déplaçable, répond la neutralité de l'analyste, et j'y reviendrai. Mais en allant un peu plus loin, au-delà de ces renversements, ce que j'ai appelé grossièreté de l'affect, traduit, j'y reviens, l'hésitation qu'on peut avoir sur sa nature qualitative ou quantitative. Et cette hésitation parcourt l'œuvre de Freud. Plus qu'une hésitation, il s'agit, dit-il, Laurence, d'une complication, d'une tentative pour tenir ensemble quantité et qualité, ancrage corporel et expression psychique. Sous la forme du quantum d'affect, l'affect est l'expression de la pulsion. Le plaisir et la douleur se disent en termes de quantité d'excitation, mais plaisir et douleur sont aussi qualifiés par leur rythme, par leur liaison au rythme et à la temporalité, ce que Freud note, alors bien sûr dans le célèbre passage du problème économique du masochisme en 1924, mais cette idée bien antérieure et parcourt déjà l'ensemble de l'esquisse dès 1895. Qualité encore, puisque le maintien de la quantité s'accommode du renversement en son contraire, plaisir, déplaisir, tendresse, hostilité, et également aussi parce que l'angoisse constitue un affect exemplaire, l'affect par excellence, d'autant plus exemplaire peut-être que l'on peut en décliner des formes plus ou moins qualifiées, de l'hystérie à la névrose d'angoisse. Dans cette dernière, dans la névrose d'angoisse, la décharge anxieuse apparaît comme la conséquence économique directe de l'abstinence sexuelle. L'angoisse y est donc un affect, ce sont des expressions de Laurence, un affect à peine affectif, à peine qualifié, expression directe de la quantité. Donc autour de l'angoisse, une articulation sûrement privilégiée de la qualité et de la quantité. Sans revenir plus longuement sur ces questions qui me paraissent toujours qualité quantité aussi taraudantes alors même qu'on pense les avoir plus ou moins résolues, c'est justement, Laurence, avec l'intervention de la forme que tu traites cette articulation quantité-qualité d'une forme qui émerge comme une rupture. Je te cite. La transformation de la quantité en qualité qui devrait s'imposer comme théorie d'un passage révèle d'abord le visage de la théorie en conflit. Conflit central pour l'analyste, conflit fondateur de son écoute. Fin de citation. Alors, je me suis demandé en te lisant pourquoi conflit, même si on comprend évidemment que c'est ce conflit précisément qu'évacuent les théories de l'empathie. Le conflit annoncé par l'affect apparaît à la fois dans l'élaboration du rêve, dans son travail et dans l'écoute de l'analyste, puisque tu penses l'un comme écho ou analogone de l'autre, mais tu me diras, je ne suis pas très contente de ces termes écho, analogone, je ne suis pas sûre qu'ils soient très pertinents. En tout cas, l'un et l'autre apparaissent comme analogues. En ce qui concerne la nature dissimulatrice de l'affect, et je dirais même sa nature dissimulatrice, hein, producteur de dissimulation de différence, et dans l'action de la forme. Dans le rêve, comme tu l'écris, l'affect reste, je te cite, l'arme de l'imposture. Il peut occuper massivement et traiteusement le devant de la scène, tu rappelles les rêves typiques de honte et d'embarras de sa nudité ou de mort des personnes chères. À propos des rêves de nudité, notamment, Freud précise que c'est seulement quand existe la liaison entre la honte et la curieuse incapacité de bouger, curieuse car paradoxale, que le rêve est typique, c'est-à-dire qu'il se révèle comme un rêve d'exhibition. C'est donc bien le conflit, la contradiction qui peut attirer l'attention, mais peut-être déjà la massivité de la honte, comme dans certains rêves particulièrement violents et apparemment sadiques, où derrière le luxe de détails particulièrement horribles, se glisse l'affect opposé. Au fond, c'est pas si désagréable que ça. Si dans le rêve, l'affect est le signe du travail de déformation du rêve, qu'il est la partie active de l'action de la forme, je te cite là, celle qui tout ensemble produit le rêve et attire l'attention du rêveur, l'écoute de l'analyste sera elle aussi saisie par lui, par l'affect. Tel est ici l'enjeu de l'indifférence de l'analyste, sa neutralité, indifférence qui est évidemment une pièce maîtresse de ta critique du psychanalyste empathique, mais qui est aussi une pièce maîtresse de la méthode. Enfin, elle est une pièce maîtresse de ta critique de l'empathie parce qu'elle est une pièce maîtresse de la méthode analytique. On est pris, sans cette indifférence, dans les raies d'un travail de traduction des contenus, on est embarqué dans la séduction et dans l'aliénation. Et cette active indifférence de l'analyste est évidemment tout le contraire d'un « je m'en foutisme ». Alors, j'aime pas trop cette expression, mais j'ai pas, au fond, trouvé... Je n'ai pas trouvé de très, très, très convaincante. Parce qu'on ne peut pas redire indifférence. Donc, cette active indifférence est le contraire de mon foutisme, d'une fascination par une quelconque pureté, ce qu'on dit aussi souvent et qui est enfin, encore pire peut-être. Elle est très exactement ce que apathie veut dire. Par exemple, l'apathie de Freud, lorsqu'il déclare à la fin du chapitre 6 d'Au-delà du principe de plaisir, qu'il ne sait pas du tout jusqu'à quel point il est lui-même convaincu par son hypothèse théorique, en l'occurrence celle de la nature régressive de toute pulsion ou de sa tendance à rétablir un état antérieur sans tension, et qu'il ajoute, je cite Freud, « le facteur affectif de la conviction n'a pas du tout à entrer en ligne de compte ». On peut tout aussi bien connaître la chance d'être tombé juste que la honte de s'être fourvoyé. Phrase qu'on pourrait rappeler de temps en temps. Certes, il s'agit ici d'une méfiance face à une hypothèse théorique, mais ce que Freud dénonce alors vaut plus généralement comme méfiance face à la nature de l'affect, sa qualité, ici la conviction. Ce qui, ajoute-t-il, ne signifie pas évidemment que toutes les opinions se valent. Le pouvoir de saisissement de l'affect en lui-même, sa justesse comme événement, pourrait-on dire peut-être, reste entier, mais il ne peut s'exercer que sur le fond de froideur de sentiment exigible de l'analyste, comme le rappelle Freud dans les conseils aux médecins. Donc, dans l'écoute de l'analyste, comment l'affect se signale-t-il ? Ta réponse par l'action de la forme et l'exemple que tu donnes, Laurence, de la base 2, insiste sur l'importance du ton, c'est-à-dire du changement de ton, des inflexions nouvelles dans la voix, de son tremblement, de son rythme. Et le rythme, comme tu le montres en appui sur le texte magnifique et décisif de Benveniste, le rythme ne tire pas son étymologie du verbe rein, je ne sais pas si on prononce comme ça, rein, couler, oui, règne. Oui. Le rythme, écrit Benveniste, ne désigne jamais le mouvement régulier des flots, son sens constant est forme distinctive, disposition, forme dans l'instant, forme de ce qui n'a pas de consistance organique. Pour s'attacher à cette forme qu'est le rythme, l'analyste s'attachera dans la voix et la parole du patient à ce qui ressort de sa part affective et corporelle et qui échappe à la signification. Pour reprendre encore une fois la distinction qui remonte à Aristote, l'analyste s'attachera à la phonée plutôt qu'à la part sémantique, lexis. Le ton, les silences, le rythme sont les formes de présentation de l'affect, les formes créées par l'affect, si difficiles à rendre dans un récit ou une narration qui en fige le mouvement. C'est ce que dit Freud, la phrase est bien connue, mais elle est tellement intéressante que je la cite quand même, quant à propos des séances de l'homme au rat, il se plaint à Jung du gâchis de nos reproductions qui mettent en pièces ces grandes œuvres de la nature psychique. C'est aussi ce que dit Conrad Fiedler quand il oppose la force productrice de la création artistique à son arraisonnement par les mots, deux destins des sensations visuelles de ce qu'il appelle la pure visibilité. Pour Fiedler, qui est un juriste de la seconde moitié du XIXe, mais dont tous les écrits sur l'art sont issus de sa fréquentation des ateliers d'artistes, pour lui donc, seul l'artiste, par opposition au philosophe, à l'esthète ou au spectateur, aura la possibilité de parvenir à une expression de la forme. Fiedler est évidemment, au même titre que Freud, l'héritier direct de la morphologie goethéenne et son analyse de la possibilité de présentation de l'art est celle-là même que Freud accorde au travail du rêve. De Goethe, Fiedler cite cette lettre à Friedrich Jacobi, je le cite, « Vois, mon cher, ce que sont le commencement et la fin de tout acte d'écrire, la reproduction du monde qui m'entoure, par le monde intérieur qui empoigne, relie, recrée, pétrit toute chose, pour lui redonner sa propre forme et sa propre matière. » Comment reproduire le monde en l'empoignant par son monde intérieur? Je ne discuterai pas ici la question de savoir s'il s'agit d'une reproduction ou d'une production, et d'ailleurs je n'ai même pas vérifié le texte allemand de Goethe. Mais ce que je trouve saisissant dans cette formule est le lien que propose Goethe entre la forme du monde, la forme intérieure, et la nouvelle forme produite par l'artiste, forme, rapport de valeur et de ton, dont Rilke craint, dis-tu, de ne pouvoir trouver les correspondances poétiques. Mais si on peut penser qu'en la matière, Rilke n'est pas trop mal loti, la question demeure de savoir quels équivalents trouver pour transmettre le vif de l'art ou de la clinique, on est toujours saisi par cela, le vif, c'est-à-dire précisément le surgissement de la forme, l'instant de l'acte, outre les formes du rêve, la sensation d'une part et l'activité sensible dans son ensemble en sont un premier exemple, tout le registre de la Guérenne et l'articulation du surgissement à la répétition en serait un second exemple, mais il y en aurait bien d'autres qui tous manifestent ce que tu appelles l'action de la forme. Encore faut-il marquer, je crois, l'écart entre la forme artistique et la forme psychique, qu'il s'agisse de la Guérenne, du rêve ou du symptôme, toute forme esthétique, fût-elle la plus violente, porte en elle, comme tu le soulignes d'ailleurs, le refoulement de ce qui la meut, c'est la condition de son action. Et même quand Poussin reproche au Caravage d'être venu au monde pour détruire la peinture en montrant la chose même et non son reflet apaisé, nous savons bien que si la violence saisit les formes, annule la narration, transgresse les codes, la sublimation et le refoulement sont toujours pourtant présents. La question qui est alors posée est double. D'une part, comment exposer ce qui serait de l'ordre de ce que tu nommes l'inutilisable, par opposition à ce que la sublimation ou d'autres opérations de déplacement pulsionnel pourraient utiliser? D'autre part, deuxième question, mais cette question est d'un autre ordre et elle porterait davantage sur la culture, que devient le saisissement par l'événement lorsque c'est, pour le dire vite, la forme tragique ou la forme goethéenne qui se trouve liquidée? Répondre à la première question suppose le passage par le transfert et le contre-transfert, l'émergence et la construction des formes dans la séance. Dans la discussion de ton rapport au CPLF en 2001, c'est dans la nuit des temps, hein. André Green insistait sur le caractère de terres étrangères, internes et externes, auxquelles la forme nous donne accès, c'est-à-dire sur la dimension d'opacité, celle de l'inconscient qui entoure leur présence, a fortiori leur appréhension. La forme, tu le rappelles souvent, la forme n'est pas une bonne forme, une gestalt donnée d'avance. Et Green insistait aussi sur le fait que tu n'interrogeais pas les formes elles-mêmes, mais leur action telle qu'elle se manifeste dans diverses transformations et entre divers protagonistes. Souscrirais-tu pour autant à sa définition de l'affect, j'y reviens, à savoir la nature profonde, je cite Green là, la nature profonde de l'affect est d'être un événement psychique lié à un mouvement en attente d'une forme. Quel sens donner alors à l'attente d'une forme ? L'excitation de la motion pulsionnelle précède-t-elle en quelque sorte l'affect lui-même, qui ne serait présent que dans la rencontre avec la représentation d'objets, comme Green, je crois, le laisse penser ? Voilà, toujours la question de la quantité et de la qualité, hein. Cela reviendrait à distinguer excitation et affect. Green caractérise le processus affectif comme, je le cite encore, une anticipation de la rencontre du corps du sujet avec un autre corps, imaginaire ou présent, rencontre dont le contact aurait pour résultat soit l'analogue d'une interpénétration sexuelle et amoureuse, soit à l'opposé, celui sur un mode comparable d'agression mutilante. L'affect serait à la fois, toujours Green, comme la préparation à une telle éventualité et l'effet de sa prévision accélérée. Fin de citation. L'intérêt d'une telle formulation est de mettre le corps, ou plutôt la relation entre deux corps, au centre du psychisme et d'insister sur l'obligation pour le psychisme à questionner sa nature de sujet. Mais la description de ces rencontres des corps convient-elle au processus analytique ? Question. C'est en tout cas seulement à partir de la clinique du transfert et du contre-transfert que pourront être nommés ces affects difficiles à décrire, car difficiles à éprouver pour le patient. Difficiles à éprouver et difficiles à utiliser dans la cure, mais il faut bien marquer la différence entre ce que tu nommes l'inutilisable, car soumis au destin du refoulement, et l'irreprésentable. L'inutilisable n'est reconnu comme tel qu'après coup, lorsqu'il est passé dans le champ de l'utilisable. Or, la convocation actuelle quasi systématique du texte de Winnicott sur la crainte de l'effondrement et l'idée d'un effondrement, alors il faudrait écrire tout ça avec des tirets, d'un effondrement redouté qui a déjà eu lieu mais dont l'affect correspondant n'a pas été éprouvé. Oui. Je rejoins ici d'une certaine façon ce qu'Aline disait hier de l'utilisation systématique du clivage. Cette idée-là, j'en perds mon texte, et cette convocation du texte de Winnicott sont devenues, j'emprunterai la formule à Spinoza, un véritable asile de l'ignorance. Formule que Spinoza utilisait à propos de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, cet asile de l'ignorance. Mais là, je dirais cette utilisation de la crainte de l'effondrement, cet asile de l'ignorance. Plutôt que de se réfugier dans l'irreprésentable ou l'impensable de l'expérience, il s'agit, nous montres-tu, de construire au cas par cas ce qui s'actualise dans le transfert et le contre-transfert. Dans l'écoute, donc, et pour en revenir à l'affect, il faut tenir ensemble, d'une part, sa justesse dérangeante, le pouvoir de saisissement de son effet, et d'autre part, la méfiance qu'il suscite, tant quant à son intensité que quant à sa qualité. Vérité et volonté de vérité, remarquez Valérie, forment un instable mélange où fermente une contradiction et d'où ne manque jamais de sortir une production falsifiée. Fin de citation. Valérie, en particulier, est un guide prodigieux par sa lucidité pour nous montrer les embûches du parler vrai littéraire, celui de Rousseau, de Stendhal ou de Diderot. Et pourtant, chez tous ces auteurs, aucune, évidemment, des naïvetés de nos tenants de l'empathie. La sincérité, pour eux, n'est pas un point de départ. Elle est le résultat visé par l'écriture, l'enjeu d'une fiction qui se sait telle, d'une feinte supérieure, et l'affect accessible est celui qui est recréé par l'écriture, comme la parole dans la cure ne peut être dissociée de son adresse transférentielle. C'est dire combien, pour eux, il ne peut y avoir de lisibilité directe de l'affect. Mais de plus, et là, on n'en est plus là, le langage de l'authenticité, qui entre transparence et obstacle, suivait pour Rousseau ou Stendhal un processus extrêmement complexe, ce langage est devenu maintenant un jargon. Et tu montres bien, Laurence, qu'il l'est d'autant plus devenu que même la méfiance déployée par Valéry en 1927, Valéry contemporain cela du Freud d'après le désastre de la Première Guerre mondiale, cette méfiance est désormais insuffisante. Tes guides sont alors Adorno et Kertész pour dénoncer la bonne forme, le kitsch émotionnel, le pathos de l'empathie. La forme artistique, comme le montre fortement Adorno, doit nécessairement désormais contenir l'élément négatif, les dissonances. Elle doit exprimer négativement l'idée d'harmonie en incarnant les contradictions et en étant sans compromis dans sa structure. Sinon, elle sombre dans la barbarie ou le simple divertissement. La question serait alors, comment pèsent dans la cure les attaques de la culture contre les formes? Le renoncement aux belles formes, à une esthétique de la forme inféodée au mythe de la belle totalité organique ou de l'authenticité, voire à l'attrait de la forme, n'est pas tellement un problème. Ce n'était pas tellement à de telles formes que les présentations de l'inconscient nous conduisaient, même si Kertész note en 1983 avec Thomas Mann que, je le cite, « la nuit des instincts inconscients où Freud plonge le regard reste un petit coin bien sympathique comparé à ce que l'homme a commis au cours des 50 dernières années ». Ou encore, je cite encore Kertész, que le sentiment de culpabilité découlant du parricide originel, que ce sentiment ait créé une culture, on le lirait la larme à l'œil si tant de pères, de fils, de filles et de mères n'avaient depuis été assassinés. À te lire. Lorsque l'appel à la Gestalt et à la Gestaltung apparaît comme un leitmotiv des textes de Müller-Braunschweig, par exemple, on ne peut que s'en méfier. L'action de la forme dans la clinique est-elle menacée par la nécessité éprouvée par Kertész d'élaborer à l'envers son Bildungs Roman ou par la critique adornienne de la sublimation? Vaste question. Hein. Il me semble en tout cas ce que tu montres dans ton dernier livre, ce que le nazisme a fait à la psychanalyse, et que la bascule se fait avec la dissociation de l'affect et de l'exécution de l'acte. L'anecdote que je rappelais tout à l'heure, où l'un des trois tailleurs d'un village doit être pendu, car le forgeron a commis un crime, l'unique forgeron a commis un crime, cette anecdote nous indiquait déjà la déliaison de la décharge pulsionnelle d'avec l'objet haï. Anecdote tournée au comique, écrit Freud dans le Moi et le Ça, mais anecdote qui n'a plus du tout, qui n'a plus rien de comique, quand elle cesse d'être une anecdote pour devenir le destin culturel de l'énergie indifférenciée, capable de s'adjoindre à l'une ou l'autre d'émotions pulsionnelles, en prenant sa source, et là, Laurence, je te cite, en prenant sa source dans la réserve de libido narcissique désexualisée qui se forme dans le décours du renoncement aux objets primaires. Bref, dans le processus narcissique. Dans un processus narcissique. Jusque-là, conclus-tu, l'affect haineux était une modalité de conservation du lien à l'objet. Désormais, il peut faire rage sans que le haï soit repérable comme objet extérieur. Il n'y a plus vraiment d'indifférence affective, puisque l'énergie est toujours liée à la haine. Mais le lien à l'objet s'est évanoui pour ne s'exercer que dans le champ clos du narcissisme. Pour peu que, dans le socius, ce dispositif mélancolique rencontre l'identification au meneur et tout est en place à la fois pour le déchaînement de la haine et pour l'homme déserté par la haine. Je voudrais pour finir conclure avec Kertész. Je le cite. « Avez-vous remarqué que dans ce siècle, tout est devenu plus vrai, plus véritablement soi-même ? Le soldat est devenu un tueur professionnel, la politique du banditisme, le capital, une usine à détruire les hommes équipés de fours crématoires, la loi, la règle d'un jeu de dupes, l'antisémitisme Auschwitz, le sentiment national, le génocide, notre époque est celle de la vérité, c'est indubitable. Eh bien, que par habitude on continue à mentir, tout le monde y voit clair. Si l'on s'écrit « amour », alors tous savent que l'heure du crime a sonné. Et si c'est « loi », c'est celle du vol et du pillage. On devient alors quelque peu nostalgique des embûches de l'affect et de son fourvoiement. »